RCF.
Bonjour Christian Bobin et merci de nous accueillir de nouveau chez vous, dans votre maison à la lisière du bois, dans cette région du Creusot. Vous avez accepté, non sans hésitation il faut le dire, de réaliser cette émission spéciale consacrée à l'esprit de Noël. Quand je vous ai téléphoné la première fois pour vous parler de ce projet, vous m'avez dit que vous n'aviez pas une relation facile avec cette fête. Une fête pleine d'ambivalence, de douceur mais aussi de frénésie, de joie et de solitude exacerbée, de discrétion et de tapage. Et puis après avoir bien hésité, vous m'avez dit « Allez, allons-y, mais ne préparons pas et laissons-nous guider ». Bien, c'est ce que nous allons essayer de vivre ensemble pendant une heure avec vous et avec et pour les auditeurs de RCF en cette période de Noël. Dans notre échange téléphonique, vous m'avez dit « Vous savez, il n'y a que les enfants qui peuvent parler de Noël ». Les adultes n'en reçoivent que le reflet. Pourquoi est-ce que seuls les enfants pourraient parler de Noël ?
Parce que c'est très difficile de parler vraiment. C'est très rare. C'est quelque chose qui arrive très rarement. Et ce qu'on appelle des événements dans nos vies, que cela vienne d'un deuil, d'un amour, d'un songe, se comptent sur les doigts d'une main. Ils sont très rares parce que il faut percer beaucoup d'épaisseur pour que l'humain, en nous et en l'autre, se réveille. Pour que tout d'un coup, on dise quelque chose qui contredit le cours machinal du monde et du langage. Et c'est plus particulièrement vrai de toutes les périodes sur lesquelles la société vient appuyer ses tiroirs-caisses. Les périodes comme Noël, par exemple. C'est une période très singulière, attachante et passionnante à voir. Mais il faut faire un certain effort pour les voir. Pourquoi seuls les enfants sauraient-ils en parler ? Parce que le meilleur de ce temps-là est consacré à quelque chose qui est plus léger qu'un seul flocon de neige, à quelque chose qui est presque invisible, qui est très faible et qui suppose une attente infinie, une passion infinie de l'attente. Et cette passion infinie de l'attente, les enfants, malgré les apparences, l'ont en eux. Ils l'ont. On peut dire peut-être qu'un enfant, c'est juste quelqu'un qui attend l'ouverture des portes du paradis, que c'est ça l'enfance. Et si vous continuez plus tard, après quelques dizaines d'années, d'attendre l'ouverture des portes du paradis, alors vous êtes encore un enfant. Vous avez cet esprit d'enfance.
Vous avez prononcé 3 fois le mot « attente », oui. « Attendre ». C'est ça qui caractérise particulièrement cette période de Noël ou d'avant.
Dans ce qu'il a de plus beau, oui. Oui, dans ce qu'il a de plus beau, oui. Il y a... Comment je pourrais vous dire ça ? Je me souviens de Noël dans la France des années 50-60, c'est-à-dire cette France où j'étais très jeune, et où si jeune que finalement on ne m'emmenait pas à la messe de minuit, qui se passait réellement à minuit. Donc on me réveillait pour un repas après. Les parents allaient à la messe et ensuite venaient nous réveiller. Et ces sortes de féeries ouvrent une brèche dans le temps. La nuit de Noël est très particulière, mais j'aurais peut-être... Je pense que dans le cours de notre conversation, je trouverai. Mais là, j'aurais un peu du mal à dire pourquoi elle est si particulière. Elle est comme un bourgeon tout près d'éclater et d'éclore. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Là, je parle à nouveau toujours dans le mieux de ce que cette période peut présenter, peut offrir, ou pouvait offrir. quelque chose se passe qui semble avoir effacé pendant quelques heures toutes les déceptions de la vie. C'est comme si on... Je sais pas, c'est comme si on attendait quelque chose et que... Quoi, je ne sais pas exactement, mais peut-être, je pense que ce qu'on attend là, c'est ce qu'on attend toute la vie. Voilà.
Mais Christian Bobin, l'attente n'est pas une des caractéristiques de l'enfant qui vit fortement l'instant présent, qui souvent est impatient. Comment peut-il, je dirais, savourer cette attente alors qu'il est si impatient, généralement?
Alors, c'est peut-être le mot espérance qui sera encore le mieux. C'est l'espérance de grandes choses, de choses... C'est vrai que les enfants sont les petits seigneurs de l'impatience, les rois de l'impatience, mais en même temps, ils ont en eux quelque chose qui ignore notre temps à nous, notre temps morcelé, minuté, découpé, rongé par la petite mécanique des aiguilles. Quittons l'hiver et allons en été pendant une seconde. Moi, je me souviens d'été pendant lesquels que je passais en Bresse, dans une campagne. Le ciel était comme plombé, le ciel pesait sur les têtes, il était inlassablement et victorieusement bleu. Et j'ai le souvenir, alors que je n'y passais qu'un mois, d'y avoir passé à chaque fois une dizaine d'années entières. La perception du temps par l'enfant est très différente de la nôtre. Très, très différente. Même chez ces enfants rendus impatients d'aujourd'hui. Même chez ceux-là. Ils gardent une science autre du temps et de la vie.
Mais pour revenir à cette attente du petit garçon que vous étiez dans les années 50-60 dans son lit, qui attendait qu'on le réveille, qui attendait d'aller au pied du sapin pour voir ce qu'on lui avait apporté. Il y avait cette espérance dont vous venez de parler?
Oh, les choses étaient plus souterraines. C'est le langage est venu bien après. Et l'écriture aussi. Et les choses... la plupart des grandes choses dans cette vie sont muettes. Elles passent par en dessous du langage. Elles n'ont pas de mots pour les escorter. Et c'est, je crois, un des travaux de l'écriture que de leur donner cette escorte, que de les fortifier et que d'empêcher qu'on les oublie en les nommant. Mais ce qui arrive commence par arriver de façon très silencieuse, exactement comme la neige qui tombe sur notre sommeil. Une des plus belles choses de cette vie, comme par hasard une des plus simples, c'est de s'endormir dans une maison alors que la terre présente toutes les complications de ses reliefs et qu'il fait juste simplement froid, et de se réveiller avec une simplification radicale faite par la neige. La venue de la neige pendant notre sommeil est aussi bouleversante que si la mère vient près de l'enfant endormi pour sentir son souffle et ensuite s'en va rassurer. C'est aussi bouleversant que ça. Et ces choses-là font partie de l'imaginaire de Noël, même quand il ne neige pas. Nos hivers sont parfois avares en flocons. Mais peu importe, cette vérité que je dis, elle continue d'être. Voilà, je viens de trouver peut-être une des petites féeries de cette époque, de ce moment-là.
Visage, RCF.
Christian Bobin, nous poursuivons ensemble cette réflexion aujourd'hui autour du thème de Noël, de l'esprit de Noël. Vous venez de parler de la neige. J'aimerais bien qu'on reste avec la neige.
Très volontiers.
Parce que je sens, j'ai vu dans beaucoup de vos livres qu'elle tient beaucoup de place.
Oui.
Vous avez écrit un jour, voyant la neige descendre sur le jardin, j'ouvre le livre et mets en concurrence les deux espèces de silence. C'est le livre qui gagne.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Pour nous parler à la fois de la neige et de votre écriture.
Je vais vous le dire exactement ce que vous avez entendu, parce que, en lisant cette phrase, je suis étourdi, ébloui par cette vie qui va m'arracher le cœur et qui va me mettre à la porte. un jour ou l'autre, et je suis conquis par elle, amoureux d'elle, d'elle qui va me lâcher, mais en même temps, j'ai trouvé une puissance belle et peut-être au fond supérieure, je dirais celle de l'esprit, celle du redoublement de la vie dans le langage. La capacité de nommer la vie, la plus simple, la plus pauvre, de la nommer, lui donne un sang et une force et nous met en état de lutter à armes égales avec la mort certaine et même à faire en sorte que cette mort-là n'ait pas le dernier mot. L'écriture, pour moi, c'est l'art de toute présence et c'est l'art de toute résurrection. Et la vie qui passe et ne sait que passer et qui est bouleversante par ce passage même, qui est poignante de nous sourire et de tourner aussitôt la tête, eh bien, cette vie-là, elle est comme... elle trouve un abri dans la caravane de papier. Voilà. Dans la caravane du livre, elle monte et elle est à l'abri à jamais.
L'abri du blanc du papier comme l'abri du blanc de la neige, oui, dont vous parliez tout à l'heure.
Voilà, on peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Et avec quelques fleurs d'encre à l'intérieur, sur une petite table.
Vous parlez de nommer. On sait votre amour, oui, des mots.
Oui.
Quand on parle de Noël, oui, dans la tradition chrétienne,
oui,
on dit que le Verbe s'est fait chair, que la parole s'est fait chair. Comment vous entendez ça, vous qui aimez tellement la parole?
Ce qui me fascine, c'est la même chose, mais renversée, mais c'est la même chose au fond. C'est quand la chair se fait Verbe. Voyez?
Non, pas trop. Aidez-moi.
Eh bien, c'est c'est un peu ce dont je parlais juste il y a une minute. C'est quand cette vie accède au plan de l'écriture, quand elle est au plus juste, au plus près de son cœur très pur, nommé. La vie, certes, est très belle. Elle est terrible aussi. Elle est terrible. Et elle est belle. Elle est belle aussi parce qu'elle est terrible. Enfin, parce qu'on ne peut pas choisir l'un ou l'autre. Si on veut l'un, il faut l'autre aussi. L'autre,
faut tout
l'autre
prendre.
Il faut tout prendre. Ou rien.
Ou rien.
Ou rien. Et elle est, certes, incomparable et majestueuse. Mais par exemple, l'évangile de Saint Jean ou une passion de Saint Matthieu, la passion de Bach, bien que ce soit de la musique, je le mets sur le plan du Verbe, de l'esprit. Eh bien, ces choses-là sont peut-être encore plus belles. Les serviteurs sont parfois plus beaux que la reine. Vous comprenez? Et ce qui m'intéresse, c'est quand la vie passante accède au langage. Enfin. Quand elle est éclairée par un Verbe, par une image, par un livre, par une méditation.
Est-ce qu'il faut entendre que ce Verbe fait chair, cet inconnaissable venu parmi nous, met des mots, met de la parole sur cette présence silencieuse que l'on cherche tous?
Ce que l'Église entend par l'incarnation du Verbe, pour reprendre la légende, comme un tout petit bout de paille avec les humeurs soufflantes des bêtes à côté, et puis dans un nourrisson, toute la puissance des siècles entassés, et qui va bientôt se réveiller, et nous réveiller. Ce que la légende entend, ce que l'Église entend par là, me plaît parfaitement. Au fond, les deux choses sont étroitement alliées, le Verbe et la chair, voilà. Le Verbe et la chair sont étroitement liés. L'esprit et notre pauvre vie qui coule comme de l'eau sont profondément alliés. C'est très étrange. Je vais vous dire une chose peut-être étonnante, c'est que notamment ce soir, dans une période très si proche là de Noël, c'est que nous sommes à l'abri de la mort, mais nous ne le savons pas.
C'est-à-dire?
Eh bien, nous sommes infiniment gardé, protégé, infiniment. Nous sommes attendus, nous sommes protégés, nous sommes voilà. C'est quelque chose que je sens comme ça. Mais alors je sens cette chose quand je regarde des fleurs des prés, ou quand je lis un poème qui m'étonne.
C'est ça, c'est pas réservé à cette nuit particulière de Noël.
Non, c'est pas réservé à cette nuit particulière, mais puisque nous parlons de cette nuit, disons qu'elle est le concentré atomique de ça. Il y a tout amour pour se protéger et pour connaître sa vraie force va se resserrer à un moment ou à un autre. Et là, le point de densité, il y a un point de densité à Pâques et il y a un autre point à cette période de Noël. C'est évident.
Il y a une correspondance entre les deux, on le voit très bien oui. dans les icônes. Oui. On représente l'enfant Jésus oui. emmailloté, oui. qui est pratiquement dans un linceul.
Oui.
Et oui, sa mangeoire vrai. Est déjà le tombeau.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il faut penser, pour dire une chose un peu grave, il faut penser que c'est... Oui, c'est le même. C'est le même qui, ici, est adoré, éveillé, consolé, nourri par sa mère qui est... Chaque atome de l'air prend soin du nouveau-né. Mais c'est le même. C'est le même qui sera, 33 ans plus tard, mis en croix et écartelé et injurié. Et presque mis comme un chien dans un trou noir. C'est le même.
Il faut toujours tenir les deux.
Il faut toujours... Voilà, c'est ça. Voilà. Là, on vient de toucher peut-être le nerf de ce qui me plaît moins dans Noël, mais en fait, on s'en moque de ce qui me plaît ou de ce qui me plaît pas. C'est pas ça l'important. C'est pas une question d'opinion. C'est pas intéressant les opinions. C'est on vient de toucher le nerf de. Il faut toujours tenir les deux choses en même temps, le terrible et le très doux. C'est le très doux qui va l'emporter à la fin. Mais il faut que, pour que ce doux l'emporte, il faut qu'il soit armé, il faut qu'il soit tendu. Il ne faut pas qu'il soit nappé de sucre ou d'argent ou de mauvaises chansons. Mmh. Vous voyez, vous comprenez ?
Mmh. Oui, alors Christian Bobin, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le doux qui va gagner ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Eh bien, c'est très étrange, je ne peux pas m'en expliquer. Je peux vous dire que c'est un message que je reçois, ce sont des lettres que je reçois tous les jours. Qui me viennent des fleurs des prés, qui me viennent du feuillage du tremble, qui me viennent des poèmes que je peux découvrir, qui me viennent des visages que je vois, qui me viennent de tous côtés. Je suis inondé par un courrier qui, chaque fois que je l'ouvre, me délivre le même message, injustifiable, injustifié. Et même les morts s'y mettent. Mon père, qui a disparu en 99... continue, si vous voulez, son visage continue de son visage est comme une lampe de chevet pour moi. C'est avec ses yeux aussi que je lis. C'est avec ses yeux aussi que je regarde la nature. Et ces yeux-là que la terre n'a pas su recouvrir, sur lesquels on n'a pas pu jeter de terre, ces yeux-là, les yeux des gens que nous avons aimés, ne se referment pas et sur leur surface, il y a quelque chose qui passe, qui est extrêmement paisible, presque à nous faire honte d'avoir peur de quoi que ce soit. Vous voyez ? Je ne peux pas bien m'en expliquer. Hein. Je tourne autour, mais vous savez, il n'y a pas de preuve de Dieu, évidemment. Et puis, aggravons la chose, on n'a jamais vu quelqu'un, j'appelle vu, ressuscité. Je mets les évangiles à part. Mais il n'empêche que nous avons raison d'attendre une douceur incroyable. Et c'est peut-être cette attente qui fait le plus fin de la nuit de Noël. D'attendre une douceur incroyable, une douceur invulnérable, une douceur violente. Âpre et qui nous tient debout une fois pour toutes. Vous voyez ?
Christian Bobin, avant de venir au Creusot, vous rencontrer chez vous pour enregistrer cette émission, je suis passé chez moi dans ma bibliothèque et je voulais prendre un livre de vous pour m'immerger un peu dans vos écrits le temps du trajet. J'ai pris au hasard un livre, peut-être attiré par le mot de neige qui est dessus. C'est un assassin blanc comme neige. Et dans ce livre, j'ai lu ceci. Ma mère m'a appris que j'étais né entre deux éclats de serrière. Ce qui sans doute explique le grain de cette phrase. Nous allons par le pire à des choses très fleuries et très douces, accordées au secret de nos âmes.
Oui.
J'ai retenu cette phrase me disant, nous allons parler de naissance,
oui.
Mais nous allons certainement parler de douceur de la vie.
Oui.
Et cette phrase entre complètement en résonance avec ce que vous venez de nous dire. C'est vrai, votre mère vous a donné naissance entre deux éclats de
rire. Oui, c'est ce qu'elle m'a toujours dit et je lui fais confiance. Enfin, je lui faisais confiance, et bien sûr, oui.
Et ça explique cette confiance que vous avez dans la vie, même si, encore une fois, vous êtes très lucide sur les limites de la condition humaine et les souffrances de la condition humaine.
Il y a eu deux choses autour de ma naissance, dans ce qu'on m'en a dit. Ces éclats de rire maternels, juste avant que je sois séparé d'elle et puis ensuite quand je suis venu au monde. Et puis c'était fin avril et ce qui est assez rare, il y a une petite neige qui était tombée ce jour-là.
On retrouve la neige.
La neige, mm-hmm. Comme un pollen, un duvet, un dernier signe de la neige. Et cette confiance... Je vais vous inviter, et puis ceux qui nous écoutent, à un mariage gitan, parce que j'y ai assisté il y a quelques jours. Et c'était une splendeur. Il faut imaginer que ces gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Il faut imaginer des tables avec des nappes de papier, faut imaginer l'absence d'argent et l'abondance du cœur associés. Et puis les danses splendides et terribles en même temps, parce qu'elles sont comme insomniaques. Il faut entendre 11 heures de musique de suite, jusqu'à l'aube, jusqu'à 5 heures du matin. Il faut voir, comme je l'ai vu, je vais essayer de vous le montrer par ma parole, le marié, gitan, vêtu comme un prince, vêtu comme Louis XIV pouvait l'être, et servant ses invités, ce qui m'est apparu immédiatement christique. C'est le roi qui devenait le serviteur. Et puis, il faut entendre ce que m'a dit la mariée. À un moment où on se parlait, elle m'a parlé de son... C'est une très jeune gitane, elle m'a parlé d'un petit frère qu'elle avait, qui est mort, qui était mort depuis quelques années. Et puis, elle m'a dit... moi, j'ai jamais entendu ça, je vais vous dire. J'ai jamais entendu... J'aimerais tant que l'Église parle comme ça. Elle a montré le plafond. Et puis, elle a dit, il est là-haut, maintenant, mon petit frère, et il est bien. Maintenant, c'est bien, parce qu'il est auprès de Dieu, et il ne craint plus rien. Et cette confiance, cette croyance, c'est celle que j'ai. On peut pas la justifier. Cette parole en or de cette jeune gitane, on peut pas faire mieux. Et j'ai la même confiance irraisonnée, inexplicable, peut-être même parfois énervante pour certains, mais j'ai la même confiance dans le secret devenir de nos jours. Allez, au fond, c'est comme si nous étions des enveloppes fermées, cachetées, et il y a bien quelqu'un qui va finir par les ouvrir un jour. C'est ce que je crois.
Ce mot de confiance, Christian Bobin, il est très fort, très présent, je trouve, en cette période de Noël. Je suis très frappé par la confiance qui n'est pas choisie, à la limite, par un enfant, qui est abandonné entre les bras de sa mère,
oui.
Entre les bras de son père.
Oui, oui.
Ça, c'est la plus belle expression de la confiance, quelque part.
Oh oui, on devrait parler ce soir, on devrait presque parler que de ça, parce que finalement, je suis très content de parler de Noël, au fond.
Vous étiez très réticent au début, on va le dire. Hein, vous aviez peur de parler de Noël.
Très.
Très.
Alors je suis d'autant plus content.
Et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous étiez aussi réticent à parler de Noël?
Faut pas que j'oublie de dire pourquoi. Après, je suis content. Hein.
D'accord.
D'abord
la réticence.
Et après, votre contentement. La réticence, c'est parce que comme j'essaie maladroitement de, comme peut-être les gens m'entendent là, je mets un peu du temps. Je fonctionne au diesel. Je mets un peu du temps à trouver ma pensée. Et puis après, ça va. Mais comme j'ai essayé de le dire au début, mais c'est sans doute trop abstrait. Il y a des choses. Il y a beaucoup d'épaisseur. Il y a beaucoup de commerce. Il y a beaucoup de pesanteur. Il y a un devoir. Il y a un horrible devoir d'être heureux ce jour-là, cette nuit-là, qui écrase encore plus les solitaires et qui me fait horreur.
Mais là, on n'est pas dans l'esprit de Noël. Là, on est dans le tiroir caisse. On est dans le devoir d'être heureux.
Oui, mais c'est tombé dessus, voyez. C'est comme presque solidifié au-dessus. Donc, il faut briser ça.
Pour résister, là.
Il faut résister et le briser par la parole, par des gestes, par des inventions. Mais il faut le briser pour atteindre ce qui me rend si content maintenant, si heureux d'en parler, parce que vous avez raison. Vous menez très très bien cette conversation parce que vous m'amenez à la chose effectivement la plus belle du monde avec cette confiance et avec, comme vous le dites, cette confiance qui est celle de l'enfant. Je ne sais rien de plus. Nous ne serons jamais aussi élevés, aussi haut que lorsque notre père nous tenait sur ses épaules, et nous ne serons jamais aussi entouré par les anges bienveillants que lorsque notre mère tirait sur notre sommeil une couverture qui commençait à partir. Ces gestes des parents. Et alors je vais vous dire, je sais que peut-être il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui n'ont pas eu ces parents-là. Mais même ceux qui ne les ont pas eus savent que c'est le fond du fond, ça. Savent que cette bienveillance quasiment féerique d'un père et d'une mère, qu'on les ait eus ou pas, qu'on les ait connus ou pas, on sait que c'est le socle même, c'est le roc de la vie. C'est cette falaise à partir de laquelle on peut s'envoler. Et même quand on ne l'a pas connu, on l'a en soi, on la porte en soi, on le sait. Par le manque qu'on en a, on la connaît, on connaît. Et c'est, et là je parle, c'est une cathédrale de douceur qu'il faudrait dessiner avec des qu'il faudrait élever par des paroles. C'est vrai que c'est le centre de Noël, puisque au centre de Noël, il y a juste un tout petit enfant qui dépend de tout, qui est menacé partout puisqu'il dépend de tout. Et c'est extraordinaire d'être dans cette, de commencer la vie comme ça. C'est extraordinaire. Et même peut-être de la poursuivre quand on le peut comme ça. En étant exposé à tout. Parce que une mouche, une trop grande chaleur, n'importe quoi, un courant d'air peut perturber et peut blesser, peut heurter le petit corps, la petite âme d'albâtre qui est dans son berceau. Eh bien, c'est extraordinaire d'être à la fois éperdu, livré à tout venant et d'avoir cette et de recevoir cette confiance, de voir ce visage qui de temps en temps vient vers vous et se verse vers vous. C'est
incroyable parce que cette fragilité de l'enfant, elle est en chacun de nous.
Oui.
On l'a tous cette fragilité.
Oui, aujourd'hui encore, bien sûr.
Adulte,
bien sûr.
Vieillard,
bien sûr.
On est dans cette fragilité-là. Et donc ce message qui nous est donné, c'est d'être dans la confiance.
C'est ça.
Malgré cette fragilité.
C'est ça. Je vais vous lire, parce que j'avais juste pensé, on n'a rien préparé du tout pour cet entretien, on a fait...
On se laisse conduire.
Voilà, on se laisse conduire. Je vais vous lire maintenant. J'ai préparé, comme c'est un temps un peu singulier, et j'ai un cadeau, voilà. Alors le cadeau, c'est un poète, Coventry Patmore. C'est un poète anglais qui était un petit peu, comment dire, qui était apprécié par les peintres, les pré-raphaélites. C'est un poète du 19e siècle. Je risque de l'abîmer en parlant, donc je vais le lire. Et ce sera pour qui voudra. Et c'est exactement, au fond, tous nos propos jusqu'à présent nous amène vers ce poème.
Coventry Patmore, les babioles. Mon petit garçon, avec ses yeux pensifs, ses gestes et ses mots tranquilles de grande personne, m'a désobéi pour la 7e fois. Et je l'ai frappé, je l'ai renvoyé durement, sans l'embrasser, car sa mère, qui était patiente, est morte. Puis, j'ai eu peur que le chagrin l'empêche de dormir, et j'ai été le voir dans son lit. Mais il était dans un profond sommeil, paupières battues et cils encore mouillés de son dernier sanglot. Alors, ému, je l'ai embrassé et mes larmes remplaçaient les siennes. Car sur une table tirée à son chevet, il avait mis à portée de sa main une boîte de jetons et une pierre veinée de rouge, un bout de verre usé par la plage et 6 ou 7 coquillages, une bouteille avec des campanules et 2 sous français, le tout rangé avec soin pour consoler son pauvre cœur. Et ce soir-là, dans ma prière, j'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, « Ah, quand à la fin nous serons couchés sans un souffle et que mort nous ne te blesserons plus, tu te rappelleras de quelle babiole nous avons fait nos joies et comme nous avons peu compris ta grande loi de bonté. Alors, tu ne seras pas moins père que moi dont tu as pétri l'argile. Tu laisseras ta colère. Tu diras, « Voyons, ce sont des enfants. »
Visage, Thierry Lyonnais.
Christian Bobin, pourquoi est-ce que vous avez vraiment voulu nous lire ce texte en cette soirée de Noël ?
Parce que cette soirée de Noël, c'est une soirée, comme on sait, autour d'un enfant. C'est une soirée autour de l'enfant. C'est une soirée qui va chercher beaucoup en nous, qui va réveiller beaucoup de choses de l'enfance en nous. Et ce poème est, pour moi, d'une très grande... comment dire, d'une très grande consolation, d'un très grand... C'est un poème où tout est pardonné à l'avance. Tout est pardonné à l'avance, ce qui veut dire que la vie neuve peut venir, peut revenir, peut commencer maintenant, à chaque seconde.
Malgré les chagrins.
Malgré les chagrins, malgré les fâcheries.
Tristesse, malgré les disputes.
Et puis, ce qui me bouleverse aussi dans ce poème, comme on l'a entendu, c'est... puisque c'est le titre aussi, c'est les babioles, c'est-à-dire c'est les choses de peu d'importance qui servent à... qui abritent les chagrins d'enfants et leur joie aussi. Et vous savez, il n'y a pas d'adultes. Et ce qu'on appelle des adultes, ce sont des gens qui ont juste changé de babiole. C'est tout. Et je pense que les babioles des adultes sont... souvent moins intéressante qu'un caillou veiné de rouge ou que quelques sous français ou qu'un coquillage. Oui.
Alors justement, en cette nuit de Noël, on est habitué à s'offrir des babioles, à recevoir des babioles de plus en plus grosses, de plus en plus coûteuses. On est loin de l'orange ou de la papillote de nos grands-parents. Comment vous vivez ça ? Parce que j'ai bien senti, c'est ce qui vous énerve par rapport à Noël ou qui vous attriste par rapport à Noël.
Ce qui m'en éloigne plutôt, disons. Comment je le vis ?
Alors, comme tout un chacun, je reçois et je fais des cadeaux. Mais ça va être en général des livres. Vous voyez? Donc c'est les...
De nouveau la parole.
Oui, de nouveau la parole, c'est ça. Voilà, de nouveau la parole. Et les livres appartiennent... Le peuple des livres, c'est un peuple légendaire. Ça ne contredit pas cette période. Je me souviens de soldats de plomb qui étaient magnifiquement rangés dans des écrins de velours qui avaient dû coûter une petite fortune et que mon père m'avait offert. Je me souviens de ces soldats de plomb que je n'ai jamais mis en état de guerre, mais dont la présence, dont le poids dans la main était très beau. Je me souviens aussi de quoi ? D'un petit établi qui m'avait été offert. D'un petit établi de menuisier, de charpentier, avec un maillet, avec un rabot. Et contrariant comme savent l'être les enfants, j'avais en quelques secondes renversé l'établi et j'en avais fait un cheval. Ça fonctionnait très bien. Je me souviens de ces choses-là, oui. Je me souviens de ces choses-là.
Mais pourquoi est-ce que ce qui est...
Que je vous dise, le plus beau cadeau que j'ai jamais vu, c'est des bouquets d'enfants. Vous savez, quand les enfants sont tout petits et qu'ils vont dans les prés et qu'ils cueillent les fleurs, ils les décapitent. Ils n'ont pas le sens de la chose. Ils prennent pas la tige, donc ils prennent juste la tête de la fleur. Et ils vont apporter ça à leurs parents ou à un proche. Et je trouve que ça c'est hors de prix. Hors de prix.
Pourquoi ce qui est merveilleux, c'est-à-dire cet acte d'offrir,
oui.
Parce que cette période de Noël est un moment privilégié où normalement s'exprime l'amour. Alors on en a parlé de manière, je dirais presque mystique, de cet amour inconditionnel d'un Dieu. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion pour les humains de s'offrir, de manifester cet amour par ce geste du don. Pourquoi est-ce que ce geste très beau est enlaidi par les tiroirs caisses, comme vous disiez au tout début de notre entretien?
Ah, c'est compliqué parce que je crois que l'argent, comme une eau très noire, s'est infiltré partout. Et vous savez qu'on le sait que l'eau est plus dangereuse encore que le feu. Elle est plus difficile à arrêter. Elle est parfois inarrêtable. Et l'argent, par la croyance qu'il va nous donner une existence puissante, on cherche la puissance qui est normale, ce qui est normal. On cherche à être conforté et c'est tout à fait normal, mais on le cherche par des voies aberrantes. Et l'argent est rentré de plus en plus par les fenêtres, sous les portes, partout, partout. Il est rentré dans les endroits où on ne le voyait pas. Et il est rentré là aussi, évidemment, il est rentré là aussi. C'était peut-être inévitable. Nous vivons une période comme ça, en tout cas. C'est ce que je crois.
Mais comment résister, justement, à cette eau qui pénètre partout, cette eau noire de l'argent qui pénètre partout, en cette période de Noël, où cet acte de donner est beau, il relie, il unit, c'est une forme de communion.
Oui, mais ça peut être fait dans des jours aussi ordinaires. Mais
il se trouve qu'on le fait tout particulièrement pour Noël.
Oui.
Pourquoi ?
Oui. C'est comme une promesse de... Idéalement, un cadeau est comme une promesse de paix. Je t'offre ceci pour que tu ne me fasses pas de mal. Et voilà, c'est quelque chose de tribal, sans doute, qui vient de très très loin, de très archaïque.
Mais pas chez les enfants qui viennent avec leurs fleurs décapitées.
Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais les enfants, comme on ne le dit pas assez, sont de très très grands théologiens. Ils savent beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils les savent, mais ils les savent, effectivement. Des choses très profondes.
Et là, dans ce geste d'offrir des enfants, qu'est-ce qu'il y a que perdent les adultes?
Une énorme joie, une énorme gaieté, une puissance de gaieté, comment je pourrais vous dire ça? Vous voyez, moi, ce que j'aimerais, quand je dis ce que j'aimerais, ça veut dire que je n'y arrive pas, évidemment. Mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir attraper la vie,
et que chacun puisse attraper la vie. Vous voyez le geste de l'ours quand il se met au-dessus d'une rivière et qui, où les saumons remontent, dont les saumons
quand
remontent.
Quand il essaye d'attraper les saumons.
Voilà, il essaye puis il y arrive. Il y arrive. Et ben, c'est attraper la vie d'un geste aussi pur, aussi rapide que ça. Voilà. Et entrons dans le détail, puisque vous m'amenez à parler des cadeaux. Les plus beaux cadeaux, peut-être les plus intelligents, ce seraient ceux qui justement entreraient dans le cœur de la personne. C'est une parole, hein, voilà, c'est une parole. Le plus beau cadeau, c'est une parole. Voilà. Et si c'est un objet, cet objet, à sa façon, parle. Mais pas quand il est, peu choisi, quand il est, vous voyez ce que je veux dire, quand il est, quand on est inondé de sollicitations pour offrir ceci ou cela. Si on pouvait penser que quand on tend la main et que l'on donne quelque chose, que ce soit un livre, un morceau de pain, ou quand on tend un verre, ou quand on tend quelque chose à l'autre qui va s'en saisir, en vérité, c'est toujours une parole.
Est-ce que fondamentalement, cette parole n'est pas toujours la même?
Oui.
Je t'aime.
Oui, mais j'allais dire, il ne faut pas la dire.
Désolé. Je l'ai prononcé.
Oui. Mais j'aime bien. J'aime bien. Mais. Peut-être ça aurait été joli aussi de ne pas la dire. Parce que je crois que.
Mais c'est celle-ci, fondamentalement. C'est celle-ci. C'est la seule. C'est la seule. Et c'est celle qui est là au cœur de Noël.
Oui, mais il importe peut-être qu'elle soit secrète, qu'elle reste pudique. Voilà. Vous comprenez ça, hein, qu'elle soit.
Désolé, je manque de pudeur.
Non. Je vous accuse de rien, de rien. Non. C'était juste un cadeau, vous avez ouvert trop vite. Ah. Mais c'est joli aussi, c'est joli. Ah mon Dieu. Ah, c'est merveilleux de rien. Ça fait du bien.
Mais là, on est au cœur de Noël, en fait.
Oui, c'est vrai.
Au cœur de la
vie.
Oui,
c'est vrai.
On est au cœur de la vie.
Voilà, c'est vrai. Ouais, on fait de cet entretien une petite fête.
Ben oui.
Voilà.
Un immense « je t'aime ». Je le redis. Ah. Et comment continuer après ça?
Comment continuer? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas.
On va continuer quand même.
Oui, bien sûr.
Parce que, encore une fois, je vous le disais, j'ai pris un livre au hasard avant de partir.
Oui.
Et je crois pas au hasard. Il n'y a jamais de hasard.
Oui.
Et en lisant Un assassin blanc comme neige,
oui.
J'ai trouvé cette phrase, belle comme vous en écrivez souvent. Et vous écrivez ceci. Je vois parfois des choses si belles que je me réjouis de ne pas les posséder.
Oui. Vous comprenez ça?
Ben oui.
Oui.
Mais là, dans cette frénésie
oui.
de Noël,
oui.
dans le mauvais sens de Noël,
oui.
de posséder,
oui.
toujours plus,
oui.
pour être heureux.
Oui.
Et là, vous écrivez le contraire.
Enfin, oui.
Je vois parfois des choses si belles que je me réjouis de ne pas les posséder.
Oui.
Comment faire?
Alors ça, c'était... On le comprendra peut-être encore mieux, ça peut se relier à ce moment de fête. C'était pas très loin d'ici, dans la campagne, je me promenais avec mon ami, et puis on est passé devant une maison, et vous savez, on est tous comme ça. Parfois, on voit une maison, le jour commence à s'en aller, et les lumières viennent, rougeoyantes, viennent de l'intérieur de la maison, et on voit sans tout à fait voir, et on ressent quelque chose comme une chaleur, et on a envie de l'habiter. On a envie d'y être. On a envie d'être dans cette maison-là, on la trouve très belle, elle est craquante, elle est tentante comme un bonbon de pierre et de vitre. Et j'ai eu deux mouvements qui ont été séparés par une microseconde. Le premier mouvement, c'était oh, ce serait bien d'habiter là. Et le deuxième mouvement, c'est encore mieux de ne pas y être, d'être juste sur la route, de passer comme ça et de l'habiter, d'y entrer par les yeux, simplement. Mmh. Simplement. Voyez? c'est venu comme ça. Je précise parce que, en fait, moi, j'ai une mauvaise pente. J'ai une très mauvaise pente. C'est que je risquerais des fois de donner des leçons ou de faire la morale ou des choses comme ça. Et c'est pas bon, quoi, parce que c'est pas bon du tout. D'abord, c'est pas efficace, en plus. Et puis, qui est-on pour dire ce qui est bien, ce qui est mal? Simplement, j'essaye de rester au plus près. C'est pour ça que je parle comme je vous parle. C'est que j'essaye de rester au plus près des visions que j'ai, des choses qui me viennent, qui sont venues à ma rencontre. Et j'essaye de les rendre aussi vivantes par la parole qu'elles me sont arrivées. Ce qui n'est pas du tout faire une leçon, il m'a semblé que c'était encore plus merveilleux de ne pas posséder cette chose qui m'avait ébloui. Et peut-être en ne la possédant pas, elle était à jamais mienne. Mmh. Voyez.
Mais là, c'est l'adulte qui parle.
Oui.
Parce que l'enfant, lui, a envie de posséder.
Oui.
Lui, il les veut.
Oui.
Ses jouets, oui. Son vélo.
Oui.
Il a envie de posséder.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Mais en même temps, il y a quelque chose chez les enfants qui va faire. Enfin, comme je racontais tout à l'heure, on m'offre un établi, et puis un petit établi à la taille d'un enfant, et puis je le réinvente, j'en fais un cheval de bois. Donc l'enfant a une capacité de fantaisie, d'imagination très très grande Je me promène dans une ville, c'est Troyes. À Troyes, et dans l'Aube, j'entends, et puis je passe avec un poète, il y a un poète à mes côtés, un grand poète, et qui, on bavarde, et on passe devant une école, petite école, et c'est le moment de la récréation, on passe derrière les grilles, on voit une petite fille qui est en train de découper une feuille de platane. Vous savez, de la décortiquer de façon à lui laisser juste ses nerfs, ses branches, ses brindilles, son squelette lumineux. Et le poète en passant disant « Ah, ça, c'est très intéressant. Ce qu'elle fait est très très intéressant. » Et ça, c'est la grâce de l'enfant, si vous voulez. Le jeu n'a pas besoin d'électronique ou de grands bruits d'argent pour venir au monde. Le jeu a juste besoin de... On revient au poème que je lisais tout à l'heure. Il a besoin de babioles, c'est tout. C'est tout.
Christian Bobin, on vous connaît notamment pour un livre, Le Très Bas. Vous en avez écrit beaucoup d'autres depuis, je ne veux pas vous enfermer dans celui-ci, mais celui-ci a ému et rejoint beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes. Saint-François, c'était l'histoire de Saint-François en partie, et bien sûr l'histoire du Christ en même temps, en résonance avec la vie de Saint-François. Est-ce qu'on peut dire que c'est en cette nuit de Noël que Le Très Bas nous a rejoints au plus bas? Ou est-ce que c'est à la croix, durant la passion du Christ?
Ah mon Dieu, c'est une grande question. J'ai dans mon bureau une photo de mon père où il était, quand il était enfant. Il fait très sage, il fait très appliqué, très... C'est un merveilleux petit garçon d'où je viens.
Et il tient un cerceau et il est devant une palissade qui devait être installée dans l'atelier du photographe à l'époque. Et puis j'ai une autre photo aussi. Alors parfois je sors l'une et je range l'autre et inversement. Et l'autre photo, elle, je l'ai prise moi-même une semaine avant sa mort à peu près. Et il a des yeux, comment dire, la mort a tout mangé de ses forces et même on sent une lassitude de la chair. Mais elle n'a pas su débarquer et elle débarquera jamais sur l'île de ses yeux. Les yeux sont flambants, étrangement flambants neufs, alors qu'il est dans son grand âge. Et je pense que c'est ce visage-là est peut-être le plus accompli, plus encore que le visage de l'enfant. Donc je dirais peut-être c'est le moment de Pâques qui est le plus grand. Mais du point de vue, si on me permet, du point de vue du nouveau-né, le nouveau-né est quand même toujours au bord de la grande rupture. Il est, comme on disait tout à l'heure, il est soumis à tout. Il y a tous les astres, toute la pesanteur du monde, de l'univers qui tombe sur lui. Il y a ses ancêtres aussi. Il est en train, même quand il repose, quand il dort sous des milliers d'ancêtres. Et c'est quelque chose qui est aussi très, 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 très pesant. Donc le très bas, pour reprendre cette expression, il est là au fond tout le temps de notre vie. Tout le temps de notre vie. Il est là au début, c'est vrai. Il est là au début. Il est évidemment là à la fin. Mais il est là au début aussi. Si on entend par le très bas, ce qui, en nous, est sans défense et confiant. Sans défense et étrangement confiant, les deux.
Ce sont les deux autres maîtres mots de cette fête de Noël, de ce sens de la fête
voilà.
de Noël.
Voilà, voilà.
Il y a de beaux mots autour de cette fête de Noël, finalement.
Oui. Oui, finalement, oui.
Finalement. Vous qui aviez peur de cette fête et de ces mots, de mettre des mots sur cette fête.
Mais
Et la joie. Vous qui avez écrit récemment l'homme joie.
Oui.
Elle est là, la joie, dans cette fête.
Avec le tremblement. Il y a toujours une chose et toujours la lumière, certes, mais l'ombre, immédiatement. Vous voyez ? La fleur qui s'ouvre, certes, mais l'automne et l'hiver immédiatement aussi à côté d'elle. Il faut pas abandonner. Le pire n'est peut-être le pire que parce qu'il est abandonné. Il faut pas l'abandonner. Il faut le mettre toujours le remettre dans notre pensée. Voyez, toujours le remettre dans notre pensée.
Parce que je parle de joie, mais presque avec tremblement, parce que je sais que dans cette période de Noël, c'est là où la souffrance de la solitude est la plus forte, où la tristesse est souvent la plus forte, la plus violente.
Oui, la plus violente, oui.
Le manque de joie est parfois terrible durant les fêtes de Noël.
Oui, oui. Il y a un manque d'égard pour les solitaires qui atteint son maximum dans ces jours, dans ces nuits-là. Oui.
Qu'est-ce qu'on laisse, Christian Bobin, en cette fin d'émission ? Un peu de neige tombée ? Une dernière parole ?
Peut-être en n'oubliant pas ceux qui nous ont quittés, parce que je crois que les fêtes, nos fêtes parfois, sont cruelles d'oublier ceux qui nous ont quittés. Voilà. On peut conclure comme ça, peut-être. Un peu gravement, mais doucement aussi.
Merci beaucoup, Christian Bobin. Merci pour ces paroles, merci pour ces éclats de rire. Et puis je vous souhaite une très bonne fête de Noël.
Merci à vous aussi.